Oui, on célèbre aujourd'hui la Sangha qui est un des trois joyaux du bouddhisme. C'est vraiment les choses les plus précieuses et les plus centrales, hein, du bouddhisme. Forcément, il y a le Bouddha, l'idéal de l'éveil, pas seulement un idéal, c'est un être humain qui a atteint l'éveil. Le Dharma, ses enseignements qu'il a donné pour atteindre justement cet état aussi. Et la Sangha, qui est le troisième joyau. Et c'est le dernier qui est apparu, évidemment. Et il est apparu quand les cinq premiers disciples du Bouddha ont, pour leur part, atteint l'éveil, en quelque sorte. Ouais, quand ils l'ont évoqué en disant au Bouddha, ouais, acceptez-moi comme disciple. Et c'est ça le début de la Sangha, c'était des gens qui suivaient le Bouddha et qui suivaient la voie que le Bouddha a tracée et que le Bouddha partageait. Donc ouais, en quelque sorte, ce que c'est la Sangha, enfin, en préparant cette conférence ces dernières semaines, je me suis, ouais, j'ai trouvé assez difficile en fait à décrire ce que c'était. Plus j'y réfléchissais, plus je trouvais que c'était subtil et compliqué et difficile à définir. Ben les définitions, l'approche la plus simple, c'est de dire voilà, c'est la communauté des disciples. La Sangha, c'est la communauté des disciples du Bouddha, ceux qui pratiquent la voie vers l'éveil, qui s'associent ensemble dans ça. Et c'est important, et c'est quelque chose de précieux, a priori. Si c'est un des joyaux, a priori c'est quelque chose qui a de la valeur. La définition une des définitions de Sangharakshita, par exemple, ce serait que la Sangha crée les conditions nécessaires au soutien de la pratique d'une vie bouddhique effective. C'est pour ça que c'est important, parce que ça crée vraiment les conditions pour une vie bouddhique effective. Si on veut vraiment pratiquer de façon effective, on aura une grande chance d'avoir besoin d'une sangha et de conditions qui nous aident à pratiquer ça. Donc c'est vraiment important. Et c'est vraiment un aspect très important de Triratna. C'est un aspect caractéristique presque de Triratna, l'importance que l'on donne à la sangha. Ça vient en fait de la vision de Sangharakshita quand il a créé... Quand il a créé le mouvement, quand il a créé l'ordre bouddhiste Triratna, ça faisait vraiment partie intégrante de sa vision. Et c'était à l'époque quand même assez, ouais, c'était visionnaire et révolutionnaire. De nos jours, la Sangha a grandi et c'est devenu plus facile, plus évident de voir ce que c'est ou de la reconnaître. Et on peut peut-être oublier justement l'importance ou l'aspect visionnaire de créer ça, alors que dans la tradition, il y a souvent moins d'emphase sur ces aspects-là. Et pour ceux qui sont allés voir d'autres groupes ou d'autres sanghas, etc., c'est souvent le commentaire qu'ils ont quand ils viennent ou reviennent à Triratna, c'est ouais, l'importance de la Sangha et à quel point c'est précieux et riche dans notre tradition. Pas qu'il n'y en ait pas ailleurs. Mais... Donc c'est la communauté ou l'association des gens qui pratiquent le Dharma. Mais... C'est bien joli. C'est quoi ? Souvent, quand on parle de Sangha, c'est notre Sangha. Et notre sangha, c'est les gens autour de vous, là, ceux qui sont assis à côté de vous, c'est ça la sangha. C'est ceux qui viennent au centre bouddhiste. Pour vous, pour nous, c'est, C'est ça, c'est des gens, c'est des gens réels, c'est pas juste l'idée, c'est pas juste les disciples du Bouddha, c'est les gens qui sont là, c'est toi, toi. Ça, c'est la Sangha. Et peut-être que vous connaissez, donc c'est les gens immédiatement présents, immédiatement à côté de vous, mais peut-être que vous connaissez d'autres sangs bouddhistes ailleurs dans le monde, et vous pouvez identifier aussi peut-être un petit peu plus au-delà. Il y a aussi cette sangha là qui font aussi partie de leur sangha. Ou peut-être vous arrivez à imaginer comme toute la communauté Triratna où il y a des centres partout dans le monde. Et ça aussi, ça représente un aspect de sangha. Et malgré tout, ouais, c'est ces gens bien réels qui sont ici, qui sont en Angleterre, qui sont en Allemagne, qui sont en Australie, qui sont en Inde, qui sont aux États-Unis, qui sont au Mexique, qui sont au Brésil, en Afrique du Sud, en Turquie. Voilà. Ouais. En Chine. Donc c'est des gens bien réels. Mais d'un autre côté, si c'était des gens différents, si on remplaçait tous ces gens-là qui sont autour de vous par d'autres personnes, ça pourrait toujours être encore une sangha. Et ça pourrait toujours être encore votre sangha. C'est pas spécifiquement ces personnes-là non plus. C'est des vraies personnes, c'est des choses bien réelles. Et en même temps, ça pourrait être une autre personne. Ça peut être quand même sangha. Moi, j'avais une sangha quand j'étais en Angleterre, à Cambridge. C'était la sangha. Maintenant, c'est cette sangha-là. La sangha de Cambridge, elle existe toujours. Et c'est toujours un peu la mienne. Et elle a beaucoup changé. Mais il reste quelque chose qui existe au-delà de la personne en soi. Et des fois, ouais, la constellation de personnes peut changer. Et en plus, même les gens eux-mêmes changent. Les gens eux-mêmes évoluent. Des fois, ils changent de nom complètement, ils portent des kessas et ils deviennent un peu une autre personne. Et pourtant, on arrive à maintenir quelque chose de sangha qui existe toujours, indépendamment des personnes. Donc je trouve ça assez paradoxal, en fait. C'est un peu le paradoxe de... C'est à la fois quelque chose de très, très concret à une personne, et en même temps, c'est pas lié à une personne ou deux personnes en particulier. Donc je dirais que c'est autant lié aux personnes qu'au type de relation, ou voire peut-être plus au type de relation qu'on a avec les personnes. C'est vraiment ça qui est clé. Et cette relation, elle a pour but, en tant que bouddhiste et disciple du Bouddha, elle a pour but le développement spirituel. Elle a pour but l'atteinte de l'éveil. Ça, c'est l'essence de cette relation, ou le but, l'objectif de cette relation, c'est atteindre l'éveil. C'est rien de moins. voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Et on n'essaie pas seulement de le faire pour nous, ou juste pour les gens de la Sangha, aider les autres de la Sangha à atteindre l'éveil. Ça va même au-delà, c'est au moins dans Triratna, la vision de Sangharakshita, c'est on va essayer de transformer le monde. C'est pas juste la Sangha, on voit même la Sangha qui a un effet sur tout le monde autour de nous. Donc ça, c'est le but de cette relation, c'est atteindre l'éveil. Et c'est vraiment central, c'est vraiment important que ça, ce soit toujours à la base de cette relation. Et ce type de relation dans la sangha, dans le but d'atteindre l'éveil pour soi et les autres, soutenir soi-même et les autres, c'est ce qui s'appelle Kalyana Mitrata. C'est l'amitié spirituelle. C'est ça, l'amitié spirituelle. C'est le type de relation qu'il y a dans une sangha. C'est ça qui fait la sangha. C'est une relation qui est Kalyana Mitrata, c'est composé de deux termes, donc contraduit par amitié spirituelle. Mais spirituelle, c'est un peu vague comme terme, et on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. Donc Mitrata, c'est ami, Donc c'est la, ouais, c'est l'amitié, c'est bienveillante, c'est basé sur sur méta. C'est ce qu'on développe dans le méta bhavna. C'est pas juste amical, c'est aussi ouais bienveillant et quoi qui se tourne vers le l'inconditionné, l'inconditionnel et l'universel. Et Kalyana, ça veut dire aussi beaucoup de choses. C'est un terme qui est difficile à traduire. C'est pour ça que souvent on garde les termes pali ou sanskrit pour évoquer quelque chose qui est un peu plus que juste le terme spirituel. Kalyana, c'est quelque chose de beau, quelque chose de bon. Donc ça a une qualité ouais, éthique, juste. C'est quelque chose qui est juste, c'est quelque chose qui est réel, qui est vrai dans le sens du dharma, qui est là, qui est lié à la réalité, les choses telles qu'elles sont. Et donc, ouais, qui est basé sur l'éthique. Donc, c'est une amitié, c'est une relation bienveillante ou amicale, mais qui est vraiment basée sur le bon, sur ce qui est éthique, sur cette pratique du dharma, sur la volonté d'aller vers l'éveil. Donc c'est ouais, c'est une relation qui aime, qui encourage, qui développe le bon. Le bon avec un B majuscule, c'est quelque chose, ouais, c'est ce qui est bon en une autre personne, ce qui l'aide ou ce qui aide à aller vers l'éveil. C'est pas une amitié ordinaire. Il y a vraiment ce critère de présence du dharma, d'aller plus loin, de progresser, d'encourager, de développer. Et donc la sangha, comme c'est une relation, c'est quelque chose d'actif. Dans une relation, il y a toujours des choses qui se passent. C'est une relation, c'est actif, c'est un lien. Et donc c'est quelque chose qu'on fait. La sangha, c'est quelque chose qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est justement aller vers l'éveil et aller vers le bon. Et ce qu'on appelle en termes plus traditionnels dans le bouddhisme, c'est aller en refuge. C'est ça qu'on fait, c'est une expression de notre aller en refuge, si ça vous parle plus. Mais c'est ce mouvement, ouais, c'est ce mouvement, cette impulsion vers l'éveil, vers quelque chose de plus, vers quelque chose qui est au-delà de nous. J'en parlais l'autre jour avec Sadamani sur Skype. Il m'a sorti une petite phrase comme ça spontanément de sa description de ça justement en réponse à ça, et je vais juste vous la dire. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense qu'elle aurait besoin d'être un peu polie des fois, mais elle est pas mal, hein. Il disait si tu ne vas pas au-delà de toi-même vers le bon, tu ne pratiques pas vraiment la sangha. Et si tu n'encourages pas les autres au-delà d'eux-mêmes vers le bon, tu ne pratiques pas vraiment la sangha. Je trouvais que c'était assez. Il était inspiré, ouais. Et c'était venu spontanément en plus.
C'était oui, style Padmaloka.
Ouais. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment. Ça capture cet élément que c'est vraiment quelque chose qu'on fait, quoi. C'est vraiment. On a une part dans la sangha, c'est vraiment important. Et notre part, elle est vraiment, vraiment importante. Et dans la mesure où individuellement on ne pratique pas l'éthique, par exemple, ou on ne pratique pas ce type de relation amicale et bienveillante vers le bon, où on ne pratique pas notre aller en refuge, notre engagement vers l'éveil, de cet ordre-là, on ne pratique pas vraiment la sangha à son potentiel le plus élevé. À ce niveau-là, on a tendance à être plus dans des dynamiques des relations de groupe. Donc, ouais, la sangha, c'est une responsabilité individuelle. Et en même temps, c'est une pratique collective. Parce que tout le monde fait ça. Ça marche que si tout le monde fait ça. Et que c'est basé sur l'éthique, ouais, sur la bienveillance et la sagesse. Et le soutien et l'encouragement mutuel du développement vers l'éveil. Et ces caractéristiques-là de responsabilité, de pouvoir pratiquer collectivement, en même temps qu'être responsable individuellement, de sagesse, d'éthique, de bienveillance, ouais, c'est des caractéristiques de ce que Sangharakshita appelait aussi la personne autonome. Pour ceux qui sont familiers avec ce terme-là. Je ne vais pas le développer plus que ça, mais c'est juste pour ceux qui connaissent déjà un peu, ça leur parlera peut-être. Donc dans un sens, ce qui en est ressorti pour moi, c'est que la Sangha, c'est vraiment quelque chose qui a bien des égards et un niveau très fondamental et vraiment radical. C'est radicalement différent des valeurs et des qualités de la société qui nous entoure, à bien des égards. Pas tout, mais beaucoup. Du coup, c'est quelque chose qui est, comme c'est radicalement différent de ce qu'on connaît, de ce qui est familier, de là d'où on vient, c'est souvent difficile, justement, à comprendre ce que c'est que la Sangha. Et pour beaucoup de gens, le jouet de la Sangha, c'est vraiment le plus subtil, c'est pas pour tous, mais pour certains, c'est vraiment le joyau avec lequel on connecte le plus tardivement. On peut avoir une réponse très forte vers le Bouddha ou vers le Dharma. Et la Sangha, c'est toujours, c'est souvent quelque chose de plus subtil qui prend plus de temps à se développer. Parce que c'est difficile, parce que c'est tellement différent en réalité de ce qu'on connaît, que ça devient difficile à reconnaître. Et en fait, si on essaie d'approcher et de comprendre la Sangha ou de l'analyser du point de vue des critères que l'on a de la société qui nous entoure, de notre éducation et de tout notre bagage culturel, en fait, si on le regarde de la façon de... Ouais, si on essaie d'y appliquer des critères de hiérarchie, de contrôle, de pouvoir, ou de démocratie, ou de bureaucratie, par exemple, c'est des choses... ou d'économie, c'est des choses qui ne marchent pas. on aura toujours du mal. Ça apporte de la confusion et on ne sait pas trop, on n'arrive pas vraiment à comprendre ce que c'est que la Sangha. Et au pire, on amène ça sur la Sangha et on a un effet presque néfaste sur ce que c'est vraiment. Donc je pense qu'il faut se replacer et se rappeler que c'est quelque chose de radicalement différent. Forcément, on va venir avec notre conditionnement culturel et on va essayer de le voir de cette façon-là. Je crois que c'est bon de se rappeler que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment différent. Et les idées sur lesquelles sont basées notre société, notre environnement, c'est celles qui créent cet environnement. Et elles sont profondément ancrées dans notre... en nous-mêmes. Et souvent, on n'en est même pas conscient. On n'est même pas conscient des principes qui sont derrière cette culture et cette société. Donc, c'est très difficile à s'en sortir et à voir les choses différemment. Je vais vous donner un exemple concret de l'économie de marché. C'est vraiment ce qui gouverne notre société moderne, au moins du XXe siècle, voire plus. L'économie de marché, c'est un système qui permet de mettre en lien des gens qui ont quelque chose à vendre avec des gens qui veulent acheter quelque chose. Et donc il y a des relations qui existent entre ces gens et c'est ce qui fait la société. Et le but de cette relation, c'est de maximiser d'avoir le maximum de bénéfices, le maximum de profits, que ce soit pour le vendeur et pour l'acheteur. Tout le monde doit avoir l'impression d'y avoir gagné quelque chose. Donc le but, c'est de faire de l'argent. D'ailleurs, je crois que nos jours, j'ai entendu il y a pas si longtemps qu'il y a toute une branche d'économie ou de, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, dans quoi le classer, toute une branche de gens dont le travail est d'estimer la valeur des choses. C'est d'estimer à combien on peut vendre quelque chose. Donc indépendamment de combien ça coûte à produire, ils vont faire des études pour savoir à combien on va pouvoir le vendre pour qu'on le vende suffisamment cher pour que les gens pensent que ça apporte de la valeur, mais pas trop cher pour qu'ils continuent à l'acheter. Sinon, ils ne l'achèteraient pas si c'était trop cher. Donc il y a tout un monde dans l'économie qui fait ça, qui estime un truc subjectif de la valeur des choses. Et c'est même plus lié à la chose elle-même, quoi. C'est vraiment, c'est assez impressionnant. Et plus loin, donc le principe, c'est de faire de l'argent, mais plus en dessous de ce principe, il y a quelque chose d'encore plus, une idée encore plus fondamentale, qui est ça. Ça, c'est un bout de papier qui a une valeur extraordinaire. Ouais, ça peut être ce bout de papier ou un chiffre dans une colonne sur votre ordinateur ou sur un papier imprimé chez vous. Mais ce papier, on lui donne, ou notre société lui a donné, une valeur intrinsèque de celui-là, 50 euros. Et ce qui veut dire que ce bout de papier, même s'il est complètement froissé, déchiré, jeté dans la rue, il ne deviendra jamais un détritus. Ce bout de papier ne deviendra jamais un détritus. Et ça, c'est le fondement de notre... c'est le principe fondamental qui sert à développer une économie de marché. C'est que ce papier-là, il a... Donc il y a des valeurs... Des valeurs qu'on a, qu'on n'en est même pas conscient. On n'est pas conscient que c'est ce bout de papier. Enfin, moi, ça me, ouais, quand on m'avait présenté ce petit truc, c'était voilà, ouais. Si tu le jettes dans la rue, ça ne deviendra jamais un détritus. Ça restera toujours quelque chose qui a plus de valeur qu'un bout de papier. Donc ouais, donc dans un sens, ouais, la société ou une partie de la société ou un des systèmes de la société, c'est basé sur ce cet aspect de faire de l'argent et sur la valeur de l'argent. Et là, Sangha et Triratna en particulier, je parlerai plus de ça, certains exemples particuliers à Triratna. Le système, c'est la Sangha plutôt que la société de marché. Et son objectif, son but, c'est d'approfondir l'aller refuge. C'est pas de faire de l'argent, c'est pas d'échanger les choses, c'est l'aller en refuge, le mouvement vers l'éveil. Et les personnes qui y participent sont reliées, le lien qui est entre eux, c'est le lien de Kalyana Mitrata, d'amitié spirituelle, d'amitié pour le bon. Et toutes les structures, toute la société de la Sangha, on dira, toutes les structures qui sont mises en place, par exemple, dans Triratna, comme les retraites, les classes, les centres bouddhistes, les sorties, les réunions de conseil d'administration, les ateliers de dessin, les groupes d'études, l'ordre bouddhiste, Triratna, il est là pour soutenir ce mouvement vers l'éveil. Toutes ces activités sont là pour soutenir et manifester cette amitié spirituelle et ce mouvement mutuel vers l'éveil. Et c'est ça le but, c'est ça l'essence même de la Sangha. Et donc c'est vraiment radicalement différent de la plupart des objectifs et des buts de la société autour de nous actuelle. Et c'est d'autant plus compliqué que quand Sangharakshita a développé ou a créé l'ordre bouddhiste Triratna et la communauté Triratna, L'un de ces critères, c'était vraiment de le laisser, de laisser ça au milieu de la société et de le laisser. Voilà, c'est pas un ordre monastique où les gens qui y sont sortent de la société et vivent à part. C'est vraiment travailler et vivre au sein de la société dans le but aussi de transformer cette société dans laquelle on vit. Donc c'est vraiment, ça devient vraiment difficile, du coup, de changer de perspective, de changer de mode de fonctionnement. Parce qu'on est tout le temps assailli et bombardé par, par l'attraction de du monde autour de nous, qui est d'ailleurs beaucoup plus nombreux que nous. Donc c'est vraiment une tâche difficile. Et c'est vraiment... ouais, ou une tâche héroïque aussi, on dira. Mais on a aussi, ouais, quelque chose vraiment visionnaire, vraiment radical, vraiment et vraiment important à offrir à la société. On a des valeurs qui sont importantes et qui pourraient améliorer beaucoup cette société autour de nous. Et l'un des exemples, par exemple, c'est les ce qui a été créé aussi dans Triratna, c'est les... Alors, faut que je le lise parce que c'est tellement long et indigeste. Les moyens d'existence juste basés sur le travail en équipe. qui a été vraiment développé par Triratna et qui est vraiment une des particularités. Et ouais, le nom, c'est assez indigeste et on n'a pas trouvé encore mieux en français. Mais avant, dans les débuts de cette approche de bouddhistes, Triratna qui travaillait ensemble, ils appelaient ça les coopératives bouddhistes. Et ça, c'est déjà plus facile à dire. Et c'est basé sur le principe, donc c'est des équipes qui travaillent ensemble, c'est des gens qui travaillent. Qui travaillent ensemble selon des principes bouddhistes. Et le principe de base de ce travail, de cette entreprise, c'est de... le fondement, c'est basé sur donner ce que vous pouvez et prenez ce dont vous avez besoin. Ce qui est vraiment différent de ça. Et donc... L'une des plus grandes entreprises de ce genre pour Triratna, c'est Windhorse Evolution, qui est basé à Cambridge et qui est un distributeur, revendeur de bavioles, je dirais, de petites choses pour faire des petits cadeaux et des trucs comme ça. Mais qui a un business, qui est une entreprise éthique. Là où ils achètent, ils ont des relations avec leurs producteurs, ils ont des programmes sociaux avec ça, ils font vraiment attention à l'origine de leurs produits et l'impact environnemental que ça, etc. Mais dans cette entreprise, comme c'est basé sur prenez ce dont vous avez besoin et donnez ce que vous pouvez, le directeur est payé pareil que le cuistot de la cantine. Il est payé pareil. Il a la responsabilité de... Combien est l'employé ? 600 ? Je sais pas combien. 600 ou 700, 600, ben, je pense. Voilà. La responsabilité, 600-700 employés, des gros projets partout dans le monde. Et il est payé autant que le cuistot de la cantine de Windhorse. Ou autant que celui qui décharge ou charge les palettes pour les distribuer dans les magasins. Et j'ai mon amie Isabelle qui travaille là-bas, certains l'ont rencontrée il y a quelques semaines, qui est payée plus que le directeur de Windhorse. Parce qu'elle n'habite pas dans une communauté, etc. Elle a besoin de plus. Elle est mère célibataire. Donc, voilà, elle est payée un peu plus. Elle est payée un peu plus que le SMIC, je pense. Mais c'est tout. Et elle est payée plus que le directeur. Donc c'est vraiment, voilà, une attitude de pas du tout commerciale. et pas du tout ce qu'on connaît normalement. Et voilà, et les gens qui sont payés moins, qui sont payés peu, en fait, ils sont pas plus mal. Hein. Ils sont ce qui développe aussi, ça aide à, pour eux, ça les aide aussi à développer justement le contentement et la simplicité. Et c'est vraiment un antidote à la société de consommation. Ils gagnent, je sais pas, 70 euros par semaine en argent de poche. Et avec ça, il y en a qui font des économies et qui remboursent des dettes qu'ils ont depuis des années. Avec ça, comme salaire. Et donc, ils ont une vie simple. Ils ont une vie simple, beaucoup de pratiques. Et ils vivent et travaillent avec d'autres bouddhistes. Donc, ils sont constamment dans un environnement qui les encourage, qui les aide à développer leur pratique. Et donc, ça, c'est radical. Enfin, comme approche, c'est vraiment radical. Quoi. C'est vraiment une alternative à ce dogme que l'argent mesure quelque chose de réel. C'est vraiment, l'argent ne mesure pas quelque chose de réel. Ou c'est une alternative parce que ça sous-entend que les gens qui sont payés plus valent plus. Ce que, ouais, quand on fait le métabhavna, c'est vraiment. ça mène vers ça. Donc vraiment, ouais, la Sangha a bien des égards. C'est vraiment radicalement différent en fonctionnement de la société et de notre conditionnement. Ça a un but radicalement différent. Et son but, ouais, son but, c'est de changer profondément notre façon de voir et notre façon d'agir, de s'aligner de plus en plus avec les choses telles qu'elles sont. Avec l'interrelation et l'impermanence. Et donc, ouais, changer ça, c'est difficile. Vu les conditions dans lesquelles on est, vu l'environnement constant, le bombardement constant autour de nous, c'est très difficile, c'est très profondément ancré en nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit aussi... C'est pour ça que la Sangha, c'est une association de gens. Pourquoi on a besoin des autres? On ne peut pas vraiment le faire... C'est encore plus difficile de le faire tout par soi-même. Donc c'est difficile. Mais comment on le fait en pratique? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique de changer ces façons de faire? Ben, dans un sens, toutes les pratiques qu'on fait, elles tendent vers ça. Elles nous aident à développer ça. Comme je disais, toutes les activités, toutes les structures qu'il y a, les centres bouddhistes, etc., les retraites, etc., tout ça, c'est de l'eau qui est ajoutée au moulin pour changer et pour se tourner de plus en plus vers l'éveil, vers l'idéal de l'éveil. Mais je pense que c'est aussi important qu'on prenne conscience et qu'on se rappelle de la prise de conscience, justement, de la situation. Dans laquelle nous sommes, que la Sangha est constamment mise en péril par les valeurs de la société autour de nous et qu'elle est radicalement différente. Donc il y a la prise de conscience, ouais. Et dans la prise de conscience, ce qu'on appelle prise de conscience, en termes bouddhistes, il y a trois termes. Pali qui couvre ça, qui ont des angles légèrement différents. Donc je voulais juste présenter un petit peu ces angles de ce que c'est la prise de conscience dans ce sens-là. Et il y a le terme sati ou smriti qui est le fait de se rappeler, de revenir, comme quand on fait l'attention sur le souffle, de revenir. Ah oui, c'est ça que je faisais. J'étais distrait, mais c'est ça que je faisais. Je reviens, je me rappelle. Que c'est ça qui fait. Donc voilà, la prise de conscience dans le sens de se rappeler que c'est la situation, de ne pas oublier que les choses sont comme ça. Et il y a l'aspect aussi de samprajanya dans la prise de conscience, qui est l'aspect de continuité, de contexte, de placer toutes ces activités tout le temps de garder le contexte dans lequel on travaille, quoi que l'on fasse, on l'applique, on s'applique à, aller dans la même direction, c'est de garder le cap, quoi, en gros. Donc ouais, pareil, en méditation, c'est se rappeler que ce cap-là et tout ce qu'on fait autour, c'est pour revenir vers ce but. Et le dernier, c'est apramada, qui est la vigilance. C'est voilà, être vigilant de toutes les obstacles, de toutes les distractions qui arrivent et leur couper court le plus tôt possible avant qu'elles nous submergent. Et donc là aussi, d'avoir conscience et d'être vigilant des principes et des idées qui sont tellement fortement ancrés autour de nous et en nous. Et ça, cette prise de conscience, elle est à la fois individuelle et à la fois collective. Donc individuellement, ouais, je pense que l'une des choses qu'on peut faire, c'est vraiment se questionner sur la valeur des actions qu'on a ou du comportement qu'on apporte, particulièrement dans la sangha. C'est vraiment, dans cet endroit-là, c'est vraiment, est-ce que ce que j'amène, c'est vraiment Kalyanamitrata, c'est vraiment la bienveillance, mais au service du dharma. C'est vraiment vers l'éveil que je... Est-ce que mon comportement est vraiment éthique et vrai et collectif aussi, c'est voilà, on peut questionner le comportement des autres. C'est un peu limite parce qu'on a un esprit critique assez développé pour pouvoir faire ça trop facilement. Donc, ce que je suggère en pratique collective, c'est plus d'encourager le comportement positif chez les autres. Quand on voit quelque chose qui est dans ce sens-là, qui va dans cette direction-là, c'est vraiment de le soutenir, de l'encourager. Et aussi d'y répondre à soi, d'être inspiré par ça et d'être motivé par cette approche-là. Puis traditionnellement, il y a aussi les sangra vastu comme pratique, qui sont les quatre pratiques d'unification qu'utilise un bodhisattva. Quand un bodhisattva veut créer une sangha et un monde... une terre pure, il utilise ces quatre pratiques. Et je les ai toujours trouvées très, très utiles. Ouais. C'est vraiment très pratique et très, très concret. Et c'est très proche en fait, de l'éthique, des principes d'éthique. Vous y retrouverez sûrement des parallèles. Donc les sangra vastu, il y a la générosité, les paroles bienveillantes, les activités bénéfiques et donner l'exemple. Donc je vais les développer un peu. Donc le premier, ouais, c'est la générosité. C'est souvent le premier de la liste, dans beaucoup de listes bouddhistes de pratiques, c'est la générosité. J'écris plus petit là. Donc ouais, c'est la vision vraiment que donner est plus important spirituellement plus important que de recevoir. Ça change complètement, la générosité change complètement nos rapports aux autres, et particulièrement dans la sangha où c'est plus la vraie générosité, c'est plus un échange de quelque chose qu'on donne contre quelque chose qu'on reçoit. La vraie générosité, c'est parce que aujourd'hui j'ai bien apprécié la conférence de Jay Mooney, donc je vais mettre 10 € dans le bol d'offrande. C'est même si elle était mauvaise, bah voilà, je donne. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment ça vient d'autre chose, quoi. Ça vient vraiment d'une autre partie de notre cœur et notre façon de voir. Et ça permet de simplifier notre vie, ouais, quand on fait donner ce qu'on peut et prendre juste ce qu'on a besoin, vraiment besoin. Là, il y a beaucoup de choses aussi à explorer avec le terme besoin. Mais donner, ouais, toujours l'emphase, c'est sur vraiment donner tout ce qu'on peut, que ce soit du temps. Ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose, mais vraiment, ouais, de plus en plus cultiver ce sens que eh ben, ça enrichit en fait. Ça enrichit plus spirituellement de donner que de recevoir. Et c'est vraiment l'antidote, c'est un vrai antidote justement à la société de consommation, à cette idée de, ouais, de donner de la valeur aux choses par de monétaire ou des échanges, de tout le temps marchander quelque chose. Et c'est ouais, des fois une mentalité de pauvreté aussi qu'on est plus à vouloir. Et sûr, il y a plein d'autres choses encore. Donc après, il y a la deuxième pratique qu'il a, c'est du bodhisattva, c'est les paroles bienveillantes. C'est les paroles aimables, c'est les paroles justes, c'est les paroles utiles, et c'est les paroles appropriées aussi. C'est pas juste dire tout ce qui nous passe par la tête non plus. Il y a toujours un sens de relation et de l'effet que ça a avoir sur l'autre ou sur les autres autour de nous. Et c'est des paroles qui encouragent, encore une fois, je reviens à ça, qui encouragent le développement personnel, le développement vers l'éveil. Et l'antidote pour lequel c'est, et je trouve que c'est particulièrement pour... apte pour la France, c'est l'antidote à la critique et au blâme qui sont vraiment prévalents dans notre société. Je sais pas si c'est un bon terme. Le blâme, et il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ça. Mais surtout de la critique, ouais. Ayant vécu longtemps à l'étranger, dans des cultures assez différentes, c'est vraiment frappant en revenant en France à quel point les gens critiquent négativement. C'est pas une critique constructive, etc. C'est vraiment... ils râlent. Les Français râlent. Et c'est vraiment quelque chose qui, je pense qu'il faut, en tant que sangha française, dont on soit conscient. Les autres cultures, même en Angleterre, ou en Chine particulièrement, c'est pas du tout la même approche. Donc la troisième pratique du bodhisattva, c'est, et on est tous des bodhisattvas, quand on est engagé vers l'éveil, c'est les activités bénéfiques. Donc c'est des pratiques éthiques, c'est des pratiques de notre pratique de méditation, notre pratique de développement de la sagesse, les pratiques altruistes, ce qui va aider les autres ou la sangha en général. Mais c'est, je pense que c'est surtout prendre responsabilité. Ce que ça veut dire, c'est prendre responsabilité de ses actions. C'est pas juste l'action pour l'action, c'est vraiment, je prends conscience de l'effet que ça va avoir, ou les conséquences que ça va avoir, ou ce que j'ai choisi d'apporter. Je choisis d'apporter une chose ou de ne pas apporter une chose dans la sangha. Et mon critère, c'est est-ce que ça aide vers l'éveil? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que j'aide vraiment le développement des autres? Et donc c'est quelque chose qu'on fait, c'est vraiment actif, c'est vraiment notre activité. Et je crois l'antidote, c'est un antidote aussi à une attitude de la société qui est ce qu'on attend, les attentes de ce qu'on aurait le droit à avoir. Il y a une grande culture de beaucoup de ce qu'on nous doit, de ce que j'ai le droit à avoir et de ce que ça devrait être, franchement, et pas beaucoup de sens de les droits qu'on a. On a aussi des devoirs qui vont avec. Et ça, on les a oubliés avec le temps. Mais on a des devoirs envers la société. Si on a des droits à quelque chose, on a aussi des devoirs envers elle. Et c'est... Ouais. Et donc, la dernière activité, la dernière pratique du bodhisattva pour développer la sangha, c'est de donner l'exemple. Et encore une fois, c'est ne pas attendre que ça se fasse ou que ça nous vienne, que ça nous soit servi sur un plateau. S'il voit quelque chose qui a besoin d'être fait, il ne va pas dire « Oh, mais c'est pas mon rôle, c'est quelqu'un d'autre qui doit... » qui doit le faire. C'est voilà, s'il voit quelque chose et qu'il peut faire quelque chose, il se lance dans cette activité avec conscience et bienveillance et sagesse de savoir aussi. Voilà, et encore une fois, ça travaille sur cet aspect de passivité, de recevoir ou de devoir et de consommation. Tout devrait nous arriver sur un plateau parce qu'on a payé pour ça. Donc voilà quelques aspects pratiques de comment on le fait. Donc ouais, je voulais juste conclure, revenir sur ça. C'est que la sangha, c'est vraiment quelque chose que l'on fait. C'est à la fois les gens qui sont autour de nous, c'est des gens bien réels, et c'est pas des abstraits, c'est pas juste la lignée de bouddhistes qu'il y a eu dans le passé, ou des maîtres, etc. C'est vraiment les gens réels qui sont autour de nous. Mais c'est surtout notre façon d'être en lien avec eux, nous-mêmes, moi avec vous, et individuellement, comment la qualité de la relation qu'on a individuellement avec l'autre. Et c'est bien exemplifié par, on le voit pas très bien dans cette image, par l'image d'Avalokiteshvara, du Bodhisattva, de la compassion, qui a 1000 bras, 11 têtes et tout, pour voir dans toutes les directions. Mais c'est surtout les mille bras que Sangharakshita a choisi comme symbole de l'ordre bouddhiste Hiratna. Et qui représente très bien ce que c'est, ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment cet aspect, ce bodhisattva, il a ses 1000 bras, et chaque bras, chaque main a un œil pour voir la souffrance du monde. Et cette main, elle est là, soit elle est ouverte, elle peut travailler en elle-même. Des fois, elle a des outils ou des ustensiles dans les mains pour s'appliquer. Et en fait, comme symbole de l'ordre bouddhiste, c'est vraiment chaque membre de l'ordre, individuellement, a une de ses mains. Et chaque main travaille dans sa situation, dans le monde qui est autour de lui. Mais pourtant, toutes ces mains, elles sont toutes reliées au même corps. Elles sont toutes liées ensemble. Elles sont toutes individuelles et à la fois, elles sont toutes liées. Et toutes les influences de ce que fait une main influencent le reste du bodhisattva. C'est vraiment très très fort comme symbole, je trouve. Hein. Et au centre, il y a le chintamani, ou le joyau de l'éveil, la volonté d'éveil. C'est vraiment le cœur du bodhisattva, c'est la volonté d'éveil. Donc ouais, toutes les actions, en gros, elles sont reliées à ça, idéalement. Et donc ça, c'est pour l'ordre, mais c'est juste une image de comment la sangha idéalement se développerait aussi. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est quelque chose de très très actif et qui est très, c'est une vision très très élevée, très inspirante, très inspirée, très visionnaire. Et qui va au-delà qui est vraiment radicalement différente de comment notre société fonctionne. Et elle est vraiment vraiment basée sur ce sens de développement spirituel, de développement vers l'éveil.